Vous écoutez
RMC. RMC. Le Mosca.
Zap. Alors, l'image de la nuit, c'est la frayeur pour Victor Wembanyama, victime d'une commotion cérébrale avec les Spurs la nuit dernière. Sa tête a heurté le parquet lors du deuxième match du premier tour des playoffs face à Portland. On va en parler avec Maxime Tilliette. Salut Maxime.
Salut Pierrot, salut le
SLS. Salut Maxime.
Salut Maxime.
Et il est là. Parce que cette commotion peut avoir de grosses conséquences sur la post-season. Parce que qu'on s'y connaisse ou pas en basket, il faut parler en américain, Eric. Sinon, tu passes pour un bureau. Compris, ouais.
Ça, c'est des choses qu'ont aussi les basketteurs chez nous. Hein, c'est que dès qu'il y a un petit mot, on peut placer en américain.
Ah non, mais si tu passes
les mecs, ils ont joué à Cholet, à Villarbois.
Est-ce qu'il y a une version?
Et ils sont allés à l'école jusqu'à 5e quand ils veulent nous faire.
Est-ce qu'il y a une version américaine de Basket Time?
Évidemment, mais c'est moins bien.
C'est moi, bien
ouais, évidemment.
Parce que nous, avec Eric, on voulait celle-là.
Victor risque de manquer les prochains matchs de play-off. Et en plus, San Antonio a perdu la nuit dernière. Ouais. Ce qui veut dire qu'il y a un partout et qu'on joue tous les deux jours. Est-ce qu'on a déjà une idée de la durée de l'absence de Wemby?
Bah, c'est bien ça le problème. Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. L'une des seules choses qu'on sait, c'est que Wemby doit se reposer 48 heures. C'est la règle en NBA en matière de protocole commotion. Il va passer des examens neurologiques et un point sera fait vendredi pour savoir s'il pourra jouer le soir même et aider les Spurs à reprendre l'avantage du terrain qu'ils ont donc perdu la nuit dernière. Ce sont le médecin en chef des Spurs et surtout le responsable du protocole commotion cérébrale de la NBA qui devront trancher. Mais en moyenne, depuis 1999, les joueurs NBA victime de commotion cérébrale s'absente un peu plus de 7 jours. Donc, dans ce cas-là, Wemby manquerait les 3 prochains matchs et ce serait un énorme coup dur pour San Antonio dans cette série de playoffs.
Ouais, puisqu'on joue vendredi, on joue dimanche et mardi.
Mais c'est très rare des commotions quand même au basket. On ne voit pas souvent.
Hein. Ça arrive, non, il y a un protocole commotion NBA.
En plus, comme
c'est des chocs.
Comme de haut. Hein. Puis comme il se le fait, c'est incroyable. Il se casse la gueule et.
Il tombe peut-être la première.
Avec la force, la puissance des mecs et heurter le sol comme il a fait.
Il tombe de 2m20, lui. Hein.
Bah, c'est ça, il tombe de haut. C'est préjudiciable pour les Spurs qui ont perdu en plus chez eux, donc perdu l'avantage du terrain.
Sans lui, c'est plus la même.
Et sans lui, c'est plus la même équipe. 7 jours, ça va être très long.
Hein. Alors, ce qui est un peu inquiétant, c'est que sans lui, ils ont gagné des matchs de saison régulière. Sauf que là, celui-là, ils l'ont perdu.
Oui, mais là, c'est les playoffs, mais c'est les playoffs, c'est plus le même jeu en playoff. Du coup, non, mais moi, je te parie qu'il va être là sur le prochain match, sur le terrain.
Après, le problème, c'est que c'est pas lui qui décide. Hein. Là, il y a pour le coup
protocole.
Si on lui dit arrête 7 jours, c'est arrête 7 jours. Oui. Il n'y aura pas de négociation. Hein.
Mais comment il était Il était parce que on l'a vu comment il était après le.
Bah sur le moment, sur le choc,
sur le moment,
bien.
Il a un peu titubé. Ouais. Il a un peu titubé sur le moment, mais il a regagné les vestiaires en courant, en trottinant sans doute pour montrer que ça allait. Mais apparemment, les échos étaient pas très bons derrière, puisqu'il a pas pu reprendre.
Non, mais en plus, comme tu le dis, Pierrot, là, il y a un protocole NBA. Je veux dire, ils vont pas rigoler. Hein. S'ils lui disent c'est 7 jours
à la
maison,
tu
négocies pas. C'est pas le rugby.
C'est la plus grande star là.
Oui, ils vont faire pareil. Tu verras.
Ouais, mais quand même.
Je suis d'accord avec Eric. Moi, je pense qu'il sera sur
3-3. Il va dire ça fait 5.
Non, 3-3, ça fait 7. Et puis voilà.
Après, il pourra peut-être faire les finales du top 14, mais
NBA. Bon, et puis Maxime, il y a deux autres petites infos au rugby. Alors, je dis petite, c'est pas si petit que ça, mais c'est vrai que la NBA et Wembanyama prennent beaucoup de place. C'est l'Euroleague. Monaco a perdu la première occasion de se qualifier en play-off en perdant contre le Panathinaikos, mais c'est plutôt logique au vu des résultats de la saison. Et donc, il y aura une deuxième chance vendredi à 19h30.
Exactement, à 19h30 à domicile, et ça joue beaucoup aussi dans ces matchs couperés. Hein. Là, c'est victoire ou fin de saison en Euroleague pour l'AS Monaco Basket, face à Barcelone que les Monégasques ont battu le 10 avril dernier, et face à une équipe de Barcelone, mais aussi que les Monégasques avaient éliminé la saison dernière en playoff. Donc voilà, mentalement, ils ont ce petit ascendant psychologique. Après, voilà, on sait que c'est sur un match sec, tout peut se passer, et que les Barcelonais auront évidemment très envie, eux aussi, de rejoindre les playoffs, surtout qu'à Monaco, il y a toujours une infirmerie bien remplie.
Et puis on a appris aujourd'hui que la Coupe du Monde 2031 de basket aura lieu en France, ce qui sera une grande première. Hein. Oui, c'est bien.
Ah ouais, c'est génial. En 2031, réparti entre Lille, Lyon et Paris, parce qu'en plus ces dernières années, la France s'est dotée de pas mal de salles et d'arènes de très grande classe, ce qui permet donc d'accueillir pour la première fois de l'histoire, en effet, une Coupe du Monde de basket, avec pourquoi pas d'ici là une génération Wembanyama qui permettra d'aller chercher l'or.
Alors c'est vrai que 2031, donc il aura 26, je crois.
ce sera une occasion rêvée de voir Wembanyama pour le public français. Hein. On l'a vu au JO, il était jeune. Et puis je pense que peu de monde ont eu des places, peu de gens ont eu des places, peu de Français. Là, ce sera une
vraie occasion. Moyen Denis, par exemple, tu vois.
Mais non, mais parce que t'as une demande internationale quand même sur ces compétitions-là. Oui. Là, je pense qu'il y aura beaucoup le public français quand même. Hein. On tape le basket. On va parler du FC Nantes, l'autre club cher au cœur de Jérôme Pinault, puisqu'à 19h, il y a ce match reporté de la 26e journée entre le PSG et Nantes. Alors, avant de parler de Nantes, Luis Enrique pourrait relancer Lucas Chevalier soit ce soir, soit ce week-end à Angers. Et selon les infos RMC Sport, ça pourrait même permettre à Lucas Chevalier, s'il rejoint un peu en cette fin de saison, d'aller à la Coupe du Monde, puisque Didier Deschamps ne serait pas fermé à l'emmener s'il rejoue un peu. Sachant, vous savez depuis quand il n'a pas joué Lucas Chevalier, son dernier match, c'était 23 janvier.
Ouais, ça doit faire, ouais.
Ça va vite quand même. Hein.
Ça pique. Hein.
Tu peux pas aller à la Coupe du Monde en ayant raté 5 mois de compète quand même, non ? Ça semble difficile.
Ouais, c'est compliqué. J'ai l'impression, après, t'es troisième gardien. Donc, est-ce qu'il va pas faire le choix, Didier, de prendre quelqu'un qu'il connaît, qui peut être le gardien de l'avenir, entre guillemets? Je sais pas. J'avoue que j'ai pas d'idée sur ça. Je sais pas comment il peut jouer.
Ce qui est difficile à faire pour lui, c'est que déjà, dans ce groupe, il se sent pas très à l'aise. Il le joue pas. Et je pense que c'est pas non plus le caractère d'un mec qui va s'intégrer facilement et ne plus être au contact du groupe. Est-ce que, dans le groupe France, il est plus intégré que ça? Est-ce qu'on a besoin de lui? Parce que souvent, le troisième gardien, Eric, c'est quand même aussi souvent, alors soit quelqu'un qui fait pas de bruit, soit quelqu'un qui met un peu l'ambiance et qui soude le groupe.
Oui, c'est ça, ouais. Ouais, normalement, ouais. C'est ça, dans ce sens-là, ouais.
Après, a priori, le troisième gardien joue pas.
Peut-être même ça, aussi dans l'avenir. Sébastien, troisième gardien, non?
Ah, bah, écoute.
Pour l'ambiance.
Alors, on va parler de Nantes aussi. Parce que Nantes, qui est 17e de Ligue 1, a plus beaucoup d'espoir de se maintenir depuis le match nul dans les arrêts de jeu à la 96e, hein, contre Brest.
Scandaleux.
Mais franchement, alors, scandaleux. Je vous laisserai
c'est
en
mon,
parler.
C'est mon avis.
Mais c'est quand même, le scénario est abominable. C'est-à-dire que Nantes mène 1-0. Nantes prend un carton rouge à la 65e minute pour une action qui est litigieuse. C'est-à-dire que d'abord, bon, la faute est pas énorme et c'est l'intention d'annihiler une action, occasion but, manifeste de but. Bon, qui est pas manifeste pour tout le monde. OK. Donc l'arbitre finit par sortir le rouge alors que dans un premier temps, il sort le jaune et que c'est l'assistant VAR qui lui demande d'aller voir l'action. Dans son rapport complémentaire, il indique que finalement, il faut requalifier le carton rouge en carton jaune. Donc, il se dédie, malgré le visionnage des images pendant le match. La commission de discipline de la Ligue l'a suivi. C'est-à-dire que le carton rouge de Tabibou est requalifié en carton jaune. Oui, Vahid Elilhodžić, qui s'est fait expulser de colère parce que lui, évidemment, estime que l'expulsion n'est pas justifiée, est passé en commission de discipline, a pris 4 matchs. C'est-à-dire que ça le prive de presque tous les matchs jusqu'à la fin de saison. Il reviendra pour Nantes-Toulouse. Ce sera peut-être déjà trop tard pour les Nantais. Écoutez, Vahid sur cette séquence incroyable pour le FC Nantes.
Vous voyez, ça se passait beaucoup de choses dernièrement. Après le match, j'ai entendu, j'ai vu le rapport. L'arbitre a avoué qu'il s'est trompé. Ah ben il faut le féliciter, mais ils n'ont pas dit qu'ils ont volé notre victoire aussi. Et j'ai vu dans le journal L'Équipe, le jour, ils demandent 5 mois de suspension pour Vahid parce que j'ai demandé que l'arbitre m'explique parce que je n'ai pas compris. Surtout après le visionnage de moments clés comme ça, ça m'a vraiment. Ouais. Malheureusement, c'est comme ça.
Alors, il prend 4 matchs parce qu'il a touché l'arbitre. Hein. Faut quand même l'arbitre assistant. Mais c'est vrai, quand il dit qu'il a reconnu l'erreur, mais il n'a pas reconnu qu'ils nous ont volé la victoire. Non, mais ce scénario pour Nantes, il est abominable.
Il a aussi expulsé l'entraîneur adjoint sur la fin. C'est-à-dire que ça a mis le feu, j'étais au stade, ça a mis le feu cette faute. Ça a mis 8 minutes pour savoir à 5 mecs si le contrôle après la faute était bon ou pas bon et s'il y avait but ou pas but ou en tout cas occasion de but. Ce qui fait que il y a eu 9 minutes d'arrêt de jeu et dans ces 9 minutes là, le club prend un but. Tu joues à 10, tu prends un but parce que t'as expulsé un mec. Après, il avoue s'être trompé. Enfin, il y a de quoi être scandalisé pour le club. Je suis désolé, mais on peut rire de beaucoup de choses et notamment des prises de position et parfois. Mais là, je comprends Vahid, je comprends le peuple nantais, je comprends le président qui soit remonté comme une pendule parce que si tu perds pas ces 2 points là à domicile, ça te laisse encore un peu d'espoir. Là, tu te dis que tout est contre nous. C'est quand même du rarement vu que ce club, que un arbitre se dise finalement je me suis trompé après le match, sachant que dans la période de prise de décision, il y a eu un laps de temps de jeu supplémentaire et que c'est dans ce temps de jeu-là qu'on a pris un but. Alors après, on prend un but par un défenseur central qui est libre de ton marquage. C'est autre chose. Mais Normalement, tu aurais pas dû, si tu suis la logique, tu n'aurais pas dû jouer ce temps de jeu-là si l'arbitre avait pris la bonne décision.
Non, non, mais c'est catastrophique parce que tu te rends compte que même avec la VAR, on n'y arrive pas. Il y a toujours des histoires. Il y a toujours des équipes qui se sentent lésées. Alors bon, oui, ça a dû apporter un petit peu, mais je reste toujours, ça m'a toujours pas convaincu, quoi. Voilà. On a fait le débat avant cette VAR et on continue à les faire après. C'est
d'ailleurs, vous avez vu hier le Lens, le dernier défenseur toulousain, on aurait dû prendre
oui,
le rouge.
C'est vrai, il aurait dû prendre
c'est,
le rouge.
C'est vrai. Règlement. Je le comprends.
Sur le penalty, tu veux dire?
Ben oui, je comprends pas pourquoi la VAR ne.
Alors peut-être
pas
qu'il estime que l'occasion de but n'est pas manifeste parce que Thauvin a le ballon un peu derrière. Hein, et c'est, oui, il rate un peu son
contrôle. Oui, mais la règle veut que ce soit le dernier défenseur qui soit expulsé.